Bonjour, Françoise Tressard et la belle équipe, c'est la récré culture jusqu'à 13h58. À l'affiche, joli dimanche, une vie de plaisir sadomaso par Jacques Vallée, Dominique Muller. Et un petit mot sur la porte, Odile Conseil.
Il te met à touter. À faire pitié, il a bien failli y pâter, mon oncle. Et tu veux t'avoir pourquoi? Pâte que.
Viendra l'heure de chasser l'inédit en compagnie de Gérard Mordy et Lucas Fournier, de découvrir la pub Verlaine, d'observer le léger strabisme divergent de Serge Joncourt sur Fragonard, et de jouer avec les mots nouveaux de Jean-Bernard Pouy pour Patrice Delbourg et Val Massy.
Ben, la Boludine, c'est une bouillie de réminiscences de tout ce qu'on a lu des auteurs russes du 19e siècle.
C'est une bonne idée,
le
non,
pudding
Patrice
Poutine.
Delbourg. Exactement. Merci de votre fidélité à nos dimanches papous, à engranger dans vos collections pour réécoute 1000 jours et podcast un an sur franceculture.fr. Vive le dimanche! Enfin, on adore le dimanche, sauf quand arrive le soir, annonce du sombre lundi. Plus tard, on préfère les dimanches printemps-été à ceux des jours trop courts. Mais le dimanche, c'est aussi le jour qui nous réunit, nous les papous, avec vous. C'est donc un joli dimanche, puisque nous sommes ensemble un joli dimanche, à croquer en pastiche. Aujourd'hui, le joli dimanche anglo-saxon, imaginé par Hervé Le Tellier.
Oui, c'est le dimanche de Raymond Carver.
Ah.
Ouais. Traduction de Duhamel.
Oui, libre interprétation Hervé Le Tellier.
Voilà. J'ai décroché les draps un peu tard, comme d'habitude, la tête dans le borch. J'ai allumé une clope et je me suis dit que, puisqu'on était dimanche, j'allais tout de même me laver et me raser la couenne. J'ai regardé le cafard essayer de sortir du lavabo et je me suis dit que je n'allais tout de même pas l'aider à en sortir. C'est pas le jour du Seigneur pour les blattes. À la radio, justement, l'émission avait le même nom et ça beuglait des cantiques, alors j'ai tourné le bouton. J'ai pensé que j'aurais préféré aller chez Beverly's avec une centaine de dollars et une blonde explosive, mais bon... C'était le premier dimanche du mois, c'était mon tour d'aller chez mes darons. Ma sœur se planque au fin fond du Minnesota, ce qui m'a l'air d'un pléonasme, et mon petit frère est toujours chez le district à Tornay à essayer de prouver que non, c'est pas du tout lui dans cette voiture qui roule à 160 sur le périphérique. Il n'y a jamais moyen d'échapper aux gens qui vous aiment, surtout le dimanche. Ma mère, comment vous l'expliquer? C'est comme un cadeau compliqué noué avec un ruban de facilement 1 kilomètre plus long que ma patience. Et puis le gigot, faut dire, elle n'a pas le mode d'emploi. Et son troisième mari est du genre à le découper façon hérétique au couteau électrique. Alors j'ai téléphoné pour dire que j'arrivais, que je préférais m'occuper de tout, qu'elle allume le four thermostat 7, que c'était pas sorcier. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'elle avait encore invité Lola, la jeune voisine du dessus. Je dis jeune, mais à force c'est par habitude. « Je coupe les carottes », a dit Lola. Et elle en a croqué une en me regardant d'un drôle d'air. J'avais couché avec Lola une fois il y a 3 ans. J'avais eu l'impression d'être une clope qui s'envoie en l'air avec un lance-flamme. Elle avait dû comprendre le coup du premier dimanche parce que chaque fois ou presque maintenant, elle rappliquait. Là, elle découpait les carottes en tranches et il y en avait déjà 20 tranches qui gisaient sur la planche. Alors j'ai pris le gigot dans le frigo. L'articulation du gigot est toujours froide. Comme une poignée de légiste. Je dis pas une main de légiste, hein, parce que j'en sais rien. Je suis pas pervers au point de toucher ce genre de truc. J'ai pris un long couteau, j'ai filé 5 coups secs dans le gras, mais aucun témoin ne s'est mis à meugler, et j'ai enfoncé les gousses d'ail profond. Ça ne saignait pas. Le four était plus chaud que le cœur d'une rousse. J'ai arrosé le gigot d'une giclée d'huile en regardant Lola, mis 2-3 herbes de Provence, et j'ai mis le tout dans l'enfer. On mettra les carottes dans 20 minutes quand il y aura du jus, et on laissera encore autant, j'ai dit à Lola. C'est vrai, le gigot, c'est comme tout le reste. Le fond finit toujours par remonter à la surface. « Comme tu voudras, mon cœur !» a dit Lola en ouvrant la bouche, sans que la brigade des mœurs n'intervienne. En tout cas, il n'y a pas eu les sirènes. Je suis allé discuter du dernier match des Mets avec mon père. On a fini les cacahuètes et déjà, j'avais plus faim. Après, on a mangé vite fait et sans me vanter, c'était bon. Lola m'a fait du pied sous la table. Elle était plutôt virtuose des orteils. Je me suis dit que cette fille-là, était encore plus mariole que tout ce que j'avais pu penser. Je me suis dit aussi que c'était dimanche et que la semaine commençait bien.
C'était le joli dimanche.
Quel beau dimanche.
Ouais, c'est très anglo-saxon, la semaine commence le dimanche.
Et c'est presque autant Bukowski que...
Que Carver.
C'est un Carver optimiste.
Oui, c'est un Carver
optimiste. Que d'habitude.
Attendez, c'est dimanche quand même.
Après Carver, restant plus ou moins dans le monde du sombre, de l'humour pervers ou libertin, avec Jacques Vallée. Il a écrit des polars, Jacques, dont un très savoureux où l'on pouvait reconnaître le petit monde d'un quotidien en quatre lettres, un quotidien très connu. Et son roman, il y travaillait d'ailleurs à l'époque, son roman s'appelait « Une coquille dans le placard ». Là, il se prend pour un personnage, c'est comme ça. Quand on est papou, on joue tous les rôles et en plus, on les écrit. Un drôle de personnage d'ailleurs, qui cherche du boulot, ça arrive à tout le monde. Comment s'y prendre ? Trouver le bon destinataire, envoyer son CV et surtout une lettre de motivation alléchante. Faire rêver. Vous êtes qui, Jacques Vallée ?
Moi, je suis un fouet.
Oh,
ça s'entend. Ah,
Voyez-vous ça. Et alors, vous postulez pour un...
J'écris, je propose mes services, mais j'écris à la Vénus.
Mes services.
Exactement.
Ah, mes services.
Oui, ben c'est... Et j'écris à la Vénus à la fourrure, Vanda von Dunayev, la célèbre héroïne de l'écrivain Sacher Masoch.
Ben, ça va lui plaire, je pense. Hein.
Oui,
enfin, on va voir.
Surtout que j'ai un CV sérieux et costaud.
Ah oui, vous commencez par nous l'énoncer, ce CV ?
Oui, je peux annoncer mon CV. Bon. Alors, je suis né à Fouesnant, dans le Finistère.
Oui.
J'ai un bourrelier qui, outre les licoles, les harnais, les bâches fabriquées pour les paysans de la région, était spécialisé dans les martinets. Alors, je suis né par hasard dans une famille de martinets, mais je suis fouet.
Ah oui, vous
mais êtes... Dans les familles, ça arrive qu'il y ait des...
Non, mais il
des...
y a un martinet qui a trompé sa martinette et qui a fait un fouet.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui. Simplement, ce que je sais, c'est qu'un frère aîné connut la célébrité en servant chez la comtesse de Ségur. À la maison, on parlait toujours avec émotion de la poigne du général Douratine.
Ah oui.
Alors, apprentissage. Placé dès le plus jeune âge chez un charretier de Quimperlé. J'y reste 3 ans, ramasser le goémon sur les plages de Cloard, puis passe aux mains d'un débitant de cidre particulièrement brutal, celui-ci s'appelant Marcel. Je finis par prendre ce surnom, mon maître ne cessant de répéter « Fouette Marcel ».
Ah.
Donc les gens finissent par m'appeler Marcel.
Ouais, ouais.
Alors je décide de tenter ma chance à Paris. Bref séjour chez un postillon, un joyeux drille, qui faisait les allers-retours entre Paris et le relais de Meaux. Un peu plus tard, je commence une carrière artistique. J'entre d'abord au Cirque Olympique de Paris au service du célèbre dompteur Henri Martin. J'y reste plusieurs saisons, où je me produis avec les lions Néron et Cobourg, et avec le tigre Attire. Puis, j'acquiers une certaine reconnaissance lorsque je suis engagé au cinéma pour jouer avec Zorro.
Non, c'est vous.
Ben,
oh là là,
c'est la gloire, comme ça.
Alors,
c'est
formidable. Je, et là, je tourne plusieurs films, notamment en noir et blanc, La marque de Zorro, puis en couleur, Zorro le Vengeur et Le retour de Zorro.
Si on va à la cinémathèque, on peut vous revoir, quoi.
Ah, tout le temps.
Oui, je vais y aller.
Un peu plus tard, une des maîtresses du Vengeur masqué, la chanteuse allemande Wilhelmine Schröder, me destine à un usage, disons, plus intime. Pour cela, elle réduit mes dimensions, ma lanière est ramenée à 25 cm et le manche à 15.
Ah, mais ça a dû être assez douloureux quand même, vous avez été opéré.
C'est une métamorphose. Ouais. Elle continue à m'appeler Marcel, disant à ses visiteurs... « Monsieur, baissez votre pantalon, vous allez faire connaissance avec Marcel. »
Ah, c'est chic.
Oui, c'est bien. Comme... Oui.
Alors j'écris à Vanda, une lettre. Oui. Oui. Cher Vanda, je viens de lire votre annonce dans le Figaro. Vous recherchez un instrument qui, j'en suis persuadé, correspond à mes compétences. Vous demandez un fouet docile et efficace qui puisse répondre aux volontés de votre amant Séverin von Kusiemski. C'est, dites-vous, un gentilhomme délicat qui, amoureux fou de vous, entend être traité en esclave et que mon rôle sera d'être pour lui un délice. Je vous fais donc part de mes expériences dans l'espoir que vous retiendrez ma candidature. Mais il est sûr de lui, hein, c'est quand
bon,
même...
Il a l'air il a sérieux, tout, surtout, très sérieux. C'est...
Je précise que j'ai longtemps appartenu à une jeune maîtresse qui me fascinait par ses tenues provocantes, ses cuirs, ses dessous où dominaient le noir et le rouge. Elle recevait régulièrement un avocat célèbre qu'elle emprisonnait de bracelets d'acier et flagelait d'importance. J'espère retrouver auprès de vous cette émotion. Sachez que je m'adapte très bien au corps qu'il m'est donné de caresser. Vous pourrez m'essayer sur le revers de votre main, je vous garantis des sensations qui combleront votre amoureux. Par ailleurs, une longue pratique m'a appris qu'il ne faut pas me manier avec de grands mouvements de bras, de haut en bas. C'est à la main qu'il appartient de manœuvrer en tournant le poignet dans un mouvement rotatoire. Ainsi, seule la pointe de ma lanière doit venir effleurer la peau délicate, à peine cinglante, afin d'éviter d'être trop cruelle. Cependant, je vous conseille de me mouiller dans l'eau avant de m'utiliser.
Ah bon ?
Je n'en aurai davantage que plus de mordant.
Ah oui.
Ah, chère Wanda, je vous imagine, flamboyante créature à la chevelure rousse, voluptueusement étendue, à demi dévêtue sur une ottomane rouge, parée seulement d'un manteau de fourrure. Oh, j'attends que vous me saisissiez d'un bras énergique et que vous me leviez sur votre amour. Je rêve déjà au merveilleux contact de vos mains punitives, à ce temps d'attente interminable, et j'entrevois déjà le premier claquement. Ah, Wanda, je meurs d'impatience d'entrer à votre service. Signé le fouet dit Marcel.
Ah oui, il est un peu exalté, c'est sympathique.
En tout cas, il aime son boulot, c'est une mission.
Le fouet parle. Hein.
Et puis, il a un ton un peu grand siècle, je trouve. Il a été dans des bonnes maisons.
On sent qu'il connaît la musique.
Enfin, c'est clair. Il s'adresse à Wanda, mais il dit toutes les 5 minutes, sachez.
C'est ça, oui.
Dominique Muller, il a une belle personnalité, ce fouet.
En tout cas, très particulière.
Ah, ça, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Mais enfin, il est motivé. Est-ce que vous êtes la Vénus ?
Je suis Wanda à qui il écrit, tout simplement. Voilà. Je lui réponds. Et je ne suis pas si contente que... Je suis un peu pincée, je dirais même.
Ah bon.
Monsieur Marcel, il y a, je le crains, une méprise sur le sens de mon annonce. Votre proposition mérite une réponse cinglante, mais je ne veux pas encourager vos penchants. Donc, calmement, tournant cette fois ma langue dans ma bouche, je vous précise que je suis à la recherche d'un ustensile de cuisine.
Ah,
que j'ose à peine nommer fouet pour ne pas vous émoustiller. Séverin von Kusiemski, mal orthographié dans l'annonce, s'appelle en réalité Savarin von Zakuski. Et rien ne le comble davantage qu'un menu entièrement composé de douceurs faites maison. L'ustensile que je recherche doit servir à l'édification des crèmes, que j'ose à peine nommer fouetter donc, à monter les œufs battus, en neige, ouf, ce mot devrait vous refroidir, en particulier pour la réussite des sarer torte, ces délicats étagements de mousse au chocolat, entre lesquels coule, non, monsieur Marcel, ce verbe n'a rien d'évocateur, une confiture moelleuse. Il doit aussi servir à la souplesse des sauces, de ces roux qui, je vous l'assure, n'ont rien de commun avec votre rousse flamboyante. À vrai dire, je suis choquée de constater combien les gestes les plus anodins prennent pour vous une tournure équivoque. Sachez, mon cher, que votre carrière ne m'incite pas du tout à faire votre connaissance, bien que je possédasse, moi aussi, un martinet dans mon enfance. Je parle de l'oiseau des étangs, au long bec affilé, à la longue queue, non rien. Je suppose que vous n'avez pas, parmi vos connaissances, l'outil dont j'ai tant besoin. Je projette pour Savarin d'organiser un festin menu avec notre ami américain Burroughs, qui ignore tout de la cuisine occidentale et qui pensait que je lui préparais un festin nu, sans vin, ni musique, ni service de table, à même la casserole. Mais lui, il est étranger et ses contresens sont pardonnables. Franchement, vous m'avez l'air un peu toqué, c'est la cuisinière qui vous parle. Je vous recommande d'aller consulter. Il paraît qu'il y a maintenant des analystes de ce genre de troubles capables de mettre un nom sur d'étranges manies, d'étonnantes visions. Peut-être inventera-t-on pour vous le fouettisme ou le vandalisme. Je n'ai pas de fourrure, j'ai le fou rire, monsieur Marcel, en songeant à vos ridicules. Je ne vous salue pas, madame von Zakowski, née sa chère Mazoc.
Il y a un malentendu entre vous. Énorme. Hein.
Mais moi, je trouve que Vanda a bien changé, elle est très popote, elle est devenue vraiment une... très rangée. Alors, je ne sais pas quel âge a cette Vanda.
Bah, on évolue mais dans notre genre, je sais.
Elle n'a pas des beaux restes.
Oh, bon, alors le fouet, hein, ouais. Donc il avait l'air élégant comme ça, mais finalement il est un peu.
Mais je vous en m'étonne.
Il est rustre.
Rustre, oui.
On a toutes besoin d'un homme, il faut se faire une raison. Qu'il soit riche ou non, pas très beau ou mignon, on a toutes besoin d'un garçon. On a toutes besoin d'un homme, il faut se faire à cette idée. Sache laver, cuisiner, repasser et bercer nos tout petits bébés. On voudrait bien se passer de riz, on voudrait bien ne jamais leur donner notre amour, mais on le sait de toujours. Et moi, tu sais combien j'ai besoin de toi, tu sais, je n'en connais pas de plus. On a toutes besoin d'un homme, faut se faire une raison. Fidèle ou coureur, très sincère ou menteur, on a tout un garçon dans le cœur. On a toutes besoin d'un homme, faut se faire à cette idée. Se laissant gronder, tourmenter et griffer, c'est si bon quand on est énervé. On a toutes besoin d'un homme, il faut se faire une raison. Pour notre maison et pour notre passion, on a toutes besoin d'un garçon. On a toutes besoin d'un homme, faudra bien nous supporter. Laver, repasser, cuisiner, travailler, nous les filles, on saura vous aimer. Laver, repasser, cuisiner, travailler, nous les filles, on saura vous garder.
Sans commentaire, Nathalie Baye et Sylvie Vartan.
Les papousses dans la tête sur France Culture.
Et oui, et on joue un petit mot sur la porte pour les amoureux du contrepé, mais du contrepé honnête, à glisser dans toutes les oreilles, loin, très loin de l'album de la comtesse du canard enchaîné et de sa gymnastique de mots en ouïe. Et puis au papou, le contrepé, parfois approximatif, c'est aussi le plaisir du langage. Écrire une histoire qui s'ouvre sur une phrase contrepétrique, c'est-à-dire une phrase qui en cache une autre, et s'achève sur sa face cachée, c'est l'exercice proposé à Hervé Le Tellier avec un défi lancé à Odile Conseil en deuxième partie de jeu. Hervé Le Tellier, donc, ce qui nous intéresse le plus dans l'exercice, c'est l'histoire, évidemment, que vous allez nous raconter. Mais dites-moi, vous pratiquez le contre-pied à quel niveau? Vous n'êtes pas vraiment spécialiste, je le sais. Alors, ça s'adresse à un auditoire très, très pointu ou bien vous visez le jeune public, 10-12 ans?
14-15.
14-15, oui.
Avec des incursions dans le 16 ans.
Ah, quand même. Alors, ce début.
Mon oncle avait glissé un pied dans la porte.
Mon oncle avait glissé un pied dans la porte. Ouais. Et le contre-pied va porter sur tout ça?
Mais oui. Mon oncle avait glissé un pied dans la porte. « William !» me dit-il d'une voix forte, car je m'appelais William, et il parlait souvent fort. « William, je veux que tu me suives immédiatement. » « Mais, oncle Bannister, » dis-je d'une voix mal assurée, bien que je fusse courtier à la Lloyd's, « oncle Bannister, je n'ai pas fini encore de faire vos comptes. » Oui ?
Oui, non. Là, je pense que vous êtes dans les 22-24 ans, là. Hein.
Ah bon, il a très loin.
Dit-il d'une voix assurée, parce qu'il était à la Lloyd, elle est très très bonne.
Excellent.
Hein. Ben, Patrice Comon n'a pas eu l'air d'apprécier.
Si, au contraire.
Ah bon, oui. Bon alors, qu'est-ce que vous lui avez dit d'autre à votre oncle ?
Je n'ai pas encore fini de faire vos comptes. Comme vous me l'avez demandé, William, cesse d'argumenter et suis-moi immédiatement. J'obéis et je le suivis dans les rues d'Édimbourg, maladroitement, les jambes écartées, car je n'avais pas eu le temps de lacer mes lacets. « Attendez-moi, mon oncle, » balbutiai-je de temps en temps, mais ce diable d'homme n'écoutait rien. En quelques minutes, nous fûmes devant son laboratoire de l'université. Il me poussa à l'intérieur et je me trouvai devant un enchevêtrement de fils électriques qui reliait entre eux plusieurs condensateurs, des accumulateurs, une pompe à air, une sorte de longue vue télescopique et, me sembla-t-il, des lampes électriques à haut potentiel qu'il faisait venir d'Amérique. « Ah !» fit mon oncle d'un ton triomphant. « Qu'en penses-tu »« Qu'est-ce, mon oncle, qu'est-ce ?» C'est un générateur linéaire de translation. Un quoi, demandai-je, afin de permettre à l'auditeur de mieux comprendre ce dont il est question. Un générateur linéaire de translation, répéta mon oncle. Je l'ai baptisé le glit. Le glit ? Le glit, ça permet de glitter. De glitter ? De glitter. Donne-moi un objet. Tiens, par exemple, une pièce de monnaie. Je tendis un shilling avec réticence, car souvent avec oncle Bannister, les expériences tournent mal. Mon oncle s'en empara vivement, le posa sur la table et braqua la longue vue sur la pièce d'argent. Il régla la focale en marmonnant, bascula un interrupteur, il y eut des éclairs dans le laboratoire et soudain, la pièce avait disparu. « Et voilà !» dit mon oncle. « Mais, où est la pièce, mon oncle ?»« Ici !» Il se retourna et derrière lui, effectivement, sur une plaque de marbre que je n'avais point remarquée, se trouvait la pièce de 1 shilling. « Je l'ai glittée !» dit-il malicieusement. « N'est-ce pas merveilleux ?» Le monde du transport et du fret va être révolutionné. Je vais être célèbre dans le monde entier et notre nom sera transmis de générateur en générateur. Je veux dire génération. J'avais compris, mon oncle. Pensez-vous que cela marche avec un être vivant ? Bonne idée, William. Assieds-toi sur cette table, je vais te glitter. Mon oncle, peut-être vaudrait-il mieux commencer par un être plus petit, une mouche ou un cafard. Bien, marmonna mon oncle, si tu y tiens. Nous cherchâmes un insecte en vain. Il faut dire que l'odeur de soufre avait dû les faire fuir depuis longtemps. Mon oncle bougonnait. « Je vais glitter un oiseau, un moineau pour commencer. Tiens, voilà, un moineau. » Mon oncle approcha la longue vue de la fenêtre. Il aperçut un corbeau sur le toit d'en face. Derrière l'oiseau, il y avait quelques ouvriers agricoles qui travaillaient dans la porcherie voisine. « Faites attention à bien viser, mon oncle, sinon vous allez... »« Oui, ça va, William, je sais ce que je fais. » Il eut un éclair et un grognement, puis un bruit de chute de verre. Derrière nous, un énorme cochon renversait tout dans le laboratoire. La focale avait été mal réglée. Mon oncle avait glitté un porc dans la pièce.
Non.
Mais oui.
Mon oncle avait glissé un pied dans la porte, mon oncle.
Avait glitté un porc dans la pièce.
Ah oui, évidemment, mais si
le
on est...
Le yé devient un yes.
Ah ben, il n'y a pas de problème, hein. Le pied, c'est la pièce...
Glitter un porc...
Dans la pièce.
Dans la
le
pièce.
Néologisme est une petite facilité du contre-pied.
Oui, c'est vrai. Elle permet de raconter une histoire...
Intéressante.
Intéressante, voilà.
Et puis, on est à la Jules Verne, quoi, évidemment. N'est-ce pas ? Je ne me suis pas trompée.
Il m'a semblé.
Alors évidemment, si on ne connaît pas le verbe glitter...
Ah bah il faut se débrouiller avec.
Ça ne marche pas, quoi. Oui. Oui, mais c'est la petite facilité dont vous
parliez. C'est le générateur linéaire de translation.
Odile Conseil, alors, Hervé Le Tellier, comme ça, il invente des verbes. Il a inventé le verbe glitter. Et donc, il a écrit une histoire à la Jules Verne qu'on vient d'entendre, où il y avait ce verbe glitter. Et la face cachée de son contre-pied, c'était « Mon oncle avait glitté un porc, l'animal, dans la pièce. » Et moi, je vous demande, à partir de cette face cachée, d'écrire à votre tour une histoire avec ce verbe « glitter ».
Je l'ai fait.
Oui, vous lui avez donné un sens.
Je voudrais lui donner une sorte de coloration en vous disant en préalable une phrase.
Oui.
Pour qui t'ont tes terpents qui tiflent sur nos têtes.
Ouais.
Habile.
Et je vous offre un contre-pé approximatif, disons.
Oui.
Mon oncle avait glitté un porc dans la pièce et ma tante était très mécontente. Parce qu'elle, ma tante, avait glitté une pièce dans la fente du jukebox et que les cris du porc l'empêchaient d'entendre son ténor préféré qu'elle adorait écouter en tirotant un quart d'ouzo. Alors, elle empoigna son tac à main et tenta d'atomer le verra qui braillait. Pendant tout temps, mon oncle était assis sur un petit tabouret et se matait les orteils que le porc avait écrasés. Il touffrait énormément, mon oncle, et toupirait beaucoup en gémitant. Aïe, 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 aïe. Son ongle à mon oncle pitait le sang partout. On aurait dit un cochon qu'on égorge. Là, de tu, tiens-toi bien, mon oncle avale une toie du cochon. Mais ti, une toie. C'est comme ça qu'on appelle les poils du cochon. On fait des brottes avec ça, des brottes en toie de porc. Et il s'étrangle, mon oncle. Il te met à touter, à touter, à touter. À faire pitié, il a bien failli y pâter, mon oncle. Et tu veux t'avoir pourquoi ? Pâte que. Pâte que mon oncle avait une glotte de la pire espèce.
Signé Odile Courteil. C'est très amusant. Hein.
C'est sublime. C'est sublime.
Oui,
c'est
magnifique. Sublime. C'est de... magnifique. Hein. Ouais. Bravo, Odile.
Bravo.
Merci.
Bravo.
Merci beaucoup.
Merci, merci. Merci. La chasse aux inédits. Pan! Des inédits d'auteurs importants, il en sort régulièrement et on se précipite pour les lire. Les contes d'Ambrose Bierce, par exemple, il y a 2 ans. Pièces et manuscrits de Raymond Roussel, découverts dans un garde-meuble il y a 20 ans et authentifiés par François Kardec et Patrick Beignet. Mais oui, la découverte est un bonheur fou. Et comme au papou dans la tête, on mélange le vrai et le faux, on joue... Imaginons que Gérard Mandilla ait découvert des merveilles. Rêvons un peu, Gérard.
Mais j'en ai trouvé une particulièrement étonnante à Washington, à la bibliothèque du Congrès,
oui.
Où, en cherchant sur le fond Melville, j'ai trouvé là 3 lettres très différentes d'Herman Melville.
Alors, Herman, j'allais vous demander si c'était Jean-Pierre.
Non, c'est Herman Melville.
C'est Herman, oui.
Alors... La première, qui est peut-être la plus importante, est adressée à Nathanael Hawthorne, l'auteur de La lettre écarlate, qui est un écrivain, qui était aussi l'ami, une sorte de mentor pour Melville et à qui est dédié Moby Dick.
Oui.
Et la lettre est envoyée à Lenox, Massachusetts, où Hawthorne habitait. Pendant ce temps-là, Melville, lui, était à New York. Donc il lui écrit le 11 avril 1850. « Mon cher Nathanael, mon ami, merci pour votre envoi. Madame Melville, qui m'en veut terriblement, vous remerciera elle-même de lui avoir trouvé des baleines neuves pour son corset. Baleines que j'ai été bien incapable de dénicher à New York. Comme vous le devinez, cette fâcherie ne fait qu'ajouter à mes ennuis. Mon voisin, le sinistre Aqab, que son nom soit maudit, me fait un procès alors que c'est moi qui aurait dû le traîner en justice. La seule victime, c'est moi. Ce n'est pas de ma faute si son ratier s'est précipité dans mes jambes alors que je passais tranquillement devant sa porte. Cette sale bête m'a si cruellement mordu au mollet que j'ai cru m'évanouir. Qu'aurais-je pu faire d'autre que de me défendre ? Et avec quoi me défendre, sinon avec mon parapluie ? Oui, je le soutiens et je le soutiendrai devant le juge. C'est en état de légitime défense que j'ai embroché le sinistre cabot d'un coup en plein cœur. Vous ne le croirez pas, mais ce chien d'enfer n'est pourtant pas mort aussitôt. Et il s'est enfui pour aller agoniser au pied de son maître. Résultat, Aqab, que son nom soit maudit, séquestre mon parapluie, me traîne devant le tribunal et j'ai la jambe si serrée de bandage qu'on pourrait croire qu'elle est en os de cachalot. Encore une fois, merci pour les baleines. Avec toute mon amitié, Herman.
Bon, c'est gentil quand même. Hein.
Ils avaient des relations très, très amicales.
Oui.
Peut-être plus qu'amicale.
Ah, ah bon
ah. Ah, ça devient très intéressant.
Alors, mais oui, c'est croustillant. Ah
oui,
même,
oui, hein. Ça éveille l'attention.
Oui. Oui. Ah oui, mais tout de suite on se réveille. Hein.
Alors, curieusement, datée du même jour de 1850, une lettre que Melville a reçue cette fois-ci du Boston Publisher. « Cher Monsieur Melville, je vous remercie de bien avoir voulu nous confier votre conte Maudit Dick pour que nous le publions dans la prochaine livraison de notre revue. Notre comité de lecture a particulièrement été sensible au lyrisme de votre style, sa puissance d'évocation, votre sens du tragique dans le combat éternel de l'homme et de la bête, du bien et du mal, du Christ et de l'antéchrist. Cependant, nous ne croyons pas pouvoir accepter votre texte en l'état. En effet, la mort de Dick, harponnée d'un coup de parapluie, risque de choquer nombre de nos lecteurs, voire de les rebuter, tant est grand dans notre pays l'amour des chiens. Ne serait-il pas possible de modifier votre récit en remplaçant ce maudit Dick par une autre bête, un tigre, un éléphant, un singe, voire par un nègre, ce qui serait bien accueilli et symboliquement aussi fort. J'attends de vos nouvelles, Patrick Opécode, rédacteur en chef. Voilà, donc ça c'est ça. Et une dernière chose qui est plutôt un billet assez court, qui n'a pas de date, il y a juste l'indication du jour, mardi, et c'est une lettre d'Elisabeth, la femme d'Herman Melville. C'est un billet. Herman, n'insistez pas. Je préférerais ne pas réintégrer le domicile conjugal tant que vous n'aurez pas traîné au poste de police cet impudent Ismaël, le fils de ma modiste, qui, sous prétexte que je ne peux plus porter de corset, ayant un peu forci, se répand dans tout New York en m'appelant la baleine blanche. Au lieu d'écrire des sornettes que personne ne lit, de rêvasser devant notre étang, de construire des petits bateaux en papier et de chasser les grenouilles, vous feriez mieux d'assumer vos devoirs d'époux et me protéger contre cette marée de quolibets offensants. Votre Elisabeth. Elle est visiblement très en colère.
Et alors on voit à travers ces documents à quel point Melville s'est inspiré de sa vie pour écrire Moby Dick. Il a été guidé. Finalement, c'est facile d'être écrivain comme ça quand on vous aide.
Mais quand on écrit, soudain, tout ce qui arrive écrit avec vous. Et je crois que là, on a là quelque chose comme la genèse même d'une œuvre.
Ouais. Bon, un commentaire de
Sinon qu'il ne fait pas bon être marié quand on est un grand écrivain. Au fond, l'épouse a toujours des récriminations. L'épouse ne comprend pas.
Oui, c'est vrai, mais quand peut-être qu'elle n'est pas très comprise non plus. Hein.
Oui, mais ça c'est logique, puisque le créateur a une œuvre. Voilà.
C'est pour ça que Proust s'est jamais marié.
Et voilà. Non, franchement, vraiment, si j'ai un conseil à donner à nos auditeurs, c'est qu'ils ne doivent pas se marier.
Ne vous mariez pas.
Homme ou femme, mais c'est s'ils ont une œuvre
en cours,
en gestation. La Méni Grégoire, ça me frappe vraiment.
Maudit Dick.
Le pauvre Herman.
Dites-moi, Lucas Fournier, vous avez quelque chose à ajouter? Parce qu'il nous a apporté un joli petit dossier, Gérard Mordilla, sur Melville. Mais on peut peut-être l'étoffer un peu.
Ah. I am the umbrella.
You are, really?
Yes. 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 I'm crying in the rain, just crying in the rain. What a dreadful feeling, I'm sorry again. Help me. Help me if you can, I feel so bad. Ils m'ont éventré en arrachant mes baleines comme un enfant méchant qui torture une sauterelle en lui retirant ses pattes. Je ne suis plus un parapluie, je suis un arrosoir. Ils m'ont planté profond comme une épée à récibir dans la maestranza de Séville, dans le cœur sanguinolent d'un chihuahua. Je suis le parapluie écarlate, le parapluie qui s'ouvre et ne se referme pas. J'en ai ma claque d'être dans les flaques. Je suis à bout, je suis à bout, je suis très à bout, je suis très à bout. Je suis pliable, mais ça ne me fait pas rire. Je suis bref, car je suis un pépin. Le parapluie.
Oui.
Il y a un petit PS.
Oui.
Ce matin, Monsieur Melville, vous m'avez regardé longuement. J'espérais que vous alliez me prendre, et puis vous avez dit « je préfère ne pas ». Pourquoi ?
I would rather not. Oh, c'est bien, en plus, il est bilingue. Il est parfait, ce parapluie. Hein,
c'est la moindre des choses, quand on entre à New York, d'être bilingue.
Oui, bon, enfin, il pourrait être en phase d'apprentissage, pas du tout. Là, il maîtrise très très bien.
Non, non, et puis surtout que le parapluie est aussi une chose qui tient tout à fait au cœur de Lucas Fournier. Lucas Fournier a toute une histoire de parapluie dans sa vie, et j'espère qu'un jour, il le développera.
Il appellera ça « mes parapluies ».«
Mes parapluies ».
Voici notre bulletin météo pour les 100 prochaines années.
Oh, bruit doux de la pluie, 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 par terre et sur les toits, 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 pour un monde qui s'ennuie, nuit, nuit, inondations et pluie, pluie, pluie.
Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Il pleut sans saison dans ce monde trop immonde. Quoi, nulle pollution, ce temps est sans raison.
Existe aussi en version violon monotone pour vos sanglots de l'automne.
Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais.
Samuel Arthur le Rimbaud.
La vraie vedette de notre temps, c'est le temps qu'il fait.
C'était une page de Publipapoucité. Pour suivre ces inédits de Melville, découverts par Gérard Mandilla et Lucas Fournier, une pub d'Eva Almassy avec Patrice Caumont, Jeanne Carillon pour le chant, Hervé Letellier et Gabriel Godard au piano. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressart et la bande des papous du jour. À suivre jusqu'à 13h58, léger strabisme divergent. Et les mots de Jean-Bernard Pouy, comme la Boludine et son histoire, pour nos traducteurs Eva Almassy et Patrice Delbourg. Alors voilà, il souffre d'un léger strabisme divergent, un regard tordu sur la peinture, un LSD qui lui fait voir sur la toile autre chose que ce que l'artiste a voulu peindre. Lui, c'est Serge Joncourt, un type un peu bizarre, qui a déjà essayé de nous faire croire que la laitière de Vermeer était une tentative de nue intégrale avortée pour cause de manque de bois dans la cheminée de l'atelier du peintre. Mais après tout, c'est le regardeur qui fait le tableau et il est libre, Serge. D'ailleurs, c'est lui qui a choisi seul le tableau sur lequel il va maintenant porter son regard oblique. C'est quel tableau fameux, Serge Joncourt ?
Le verrou de Fragonard.
Oui, c'est un tableau très, très, très connu, ça.
Ah ben, oui, oui, ça, c'est sûrement...
Oui, tout le monde connaît, tout le monde connaît. Bon, mais Odile Conseil est là quand même pour nous le remettre en mémoire un petit peu et puis pour le faire découvrir à ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Vous pouvez nous décrire?
En effet, alors si ce tableau s'intitule Le Verrou, c'est qu'on y voit un verrou installé par le peintre en haut et à droite de cette toile qui fait 94 cm sur 74. Un verrou en pleine lumière, mais... Laissons ce verrou qu'une main vient de pousser pour nous intéresser à Icelle, une main d'homme que prolonge un bras puissant, d'homme également, le même homme d'ailleurs, et un corps, celui de l'homme, en petite tenue. Il se tient de dos, il est en chemise et en caleçon, le peintre lui a fait le mollet puissant et à vrai dire un joli petit cul. Le bras droit...
J'ai l'impression que c'est surtout ce qui vous a accroché.
il est très tentant cet homme-là, oui.
Normal.
C'est ce que vous regardez en premier chez les hommes.
Bah écoutez, quand il est montré à ce point, oui. Donc le bras droit de l'homme ferme le verrou, tandis que le gauche enlace fermement le deuxième personnage du tableau, une femme moins déshabillée que l'homme, au moment où je vous parle, qui tente peut-être de repousser le galant, peut-être et même sans doute, hein, d'ailleurs, parce que je vous rappelle que le sous-titre de ce tableau, c'est moins gai, c'est le viol. Donc dans la moitié gauche du tableau, à demi caché par une lourde tenture rouge, on devine un lit tendu de soie où s'empilent des coussins moelleux. Dans ce tableau, le verrou, il y a du rouge, du jaune, du blanc, des bruns, mais du vert où ? Nulle part.
Et drôle, elle dira, oh, il fallait qu'elle fasse son petit effet à la fin quand même. C'est difficile de faire une description tout à fait objective sans mettre un peu de sa drôlerie personnelle.
Hervé Le Tellier, vous dites qu'il n'y a pas de verre dans
ce tableau. Il n'y a pas de verre, c'est indiscutable.
Hervé Le Tellier, je vous demande comme ça, un point de vue sur ce tableau.
En fait, bon, le sous-titre est ce qu'il est, mais en fait, c'est presque un sous-titre antiphrasique, parce que c'est l'une des premières démonstrations d'un sport de combat féminin dérivé du judo et du jiu-jitsu, qui s'appelle le wendo, hein, oui. Donc le womendo, et qui est avant tout un sport de défense contre les agressions en ville. Mmh. Voilà, donc dans cette scène, la jeune wendoka, qui est en l'occurrence Judith Bernier, qui est cinquième dan de wendo, simule avec Boris Plakotov, qui est son assistant, un mouvement classique de défense dans lequel on utilise 1. La topologie du lieu, ici un mur ainsi qu'une porte, et 2. L'anatomie masculine. Alors dans ce mouvement, qu'on peut peut-être regarder une nouvelle fois au micro, voilà,
oui.
On fusionne araigoshi, tour de genou, ainsi que samatemi, retournement du menton par la joue, et l'adversaire, on le voit, subit une prise de coup très douloureuse de la main droite de la femme, prise énergique qui le plaque au mur et à la porte. Cependant, le genou gauche de la wendoka vient heurter violemment l'entrecuisse du partenaire, pouvant provoquer, si nécessaire, un écrasement.
Ah oui.
Ah, quand même, oui. Ouais. Alors, notons que si Boris porte ici un kimono classique de judo qui, effectivement, le moule plutôt bien, et oui, bien qu'un peu court par rapport à la tradition du judo classique, Judith porte la burnika épaisse, qui est une robe de satin traditionnelle de la wendoka, dont l'épaisseur vise lors des entraînements, à limiter quand même un petit peu la portée des coups qui sont assez violents. Alors, bien exécuté, ce mouvement provoque la chute et l'étourdissement de l'adversaire. La wendoka peut alors compléter par torigona, littéralement tatane dans ta gueule, afin de déconcentrer l'adversaire.
C'est plausible, hein ? Oui, évidemment, c'est le regard tordu d'Hervé Le Tellier qui a fait du judo. On ne le croirait pas comme ça, c'est mais c'est... oui.
Ah, il a fait du judo.
Ah oui,
judo.
Oui, il a même été ceinture assez haute. Hein. Je ne sais plus la couleur,
très,
mais...
Très foncé.
Très foncé. Pas d'embêter, alors.
Ah, il vaut mieux pas, Jacques Jouy.
Oula. Ah, je ne savais pas ça. Hein.
Tiens, prends ça.
Serge Joncourt, même point de vue.
Ce n'est pas du judo. Hein. Oui. Alors, écoutez, je suis fasciné par ces deux lectures du tableau. Une objective et l'autre un peu moins.
Ouais.
Et en même temps, très surpris de ne pas voir figurer dans ce qui nous en est rapporté le sujet même de cette toile. D'ailleurs, l'objet qui est au centre de la toile, pour tout dire, c'est...
Le verrou.
La porte.
Absolument pas.
La porte. Les fesses.
Mais la pomme.
La pomme.
La pomme. Ah, elle n'a pas été question du tout de
la
pomme. Elle n'a même pas été citée.
Elle avait dû rouler sous le lit.
Dans la description objective de Dill. Alors... Ah oui, chacun doit savoir qu'il y a une pomme.
Je vais vous expliquer pourquoi. Alors qu'elle est au premier plan, très objectivement, on la voit peu. Hein.
Et alors, elle est rouge, elle n'est pas verte, puisque Dill nous a dit
qu'elle n'est
pas verte.
Attendez, ne soyez pas impatiente, je sais bien. Oui, mais là-dessus, il y a des bas, justement, parce qu'elle est dans la pénombre. Donc, il s'agit d'une...
Il y a des bas aussi.
Sur le monsieur. Une nature morte qui est sans doute une des plus fameuses, une des plus illustres, en même temps que la plus ignorée. C'est la fameuse pomme de Fragonard, bêtement appelée
la pomme.
Le verrou.
Le verrou.
Comment peut-on prendre
je rigole.
Pomme bon, le verrou dans la pomme.
Oui.
Alors je sais bien, vous en êtes la preuve, pour des raisons accessoires, ce tableau a conquis sa notoriété sous une ironique appellation à cause de deux personnages figurant tout au fond de l'œuvre, au second plan, ce qui indique bien qu'ils n'ont rien de prioritaire dans l'esprit du peintre. Sinon, il ne les aurait pas mis au fond, hein, on est bien d'accord. Oui, sans doute vous-même.
Non, mais enfin, ça se discute en même temps.
Ça se discute, oui. C'est tout à fait, mais tous discutent, surtout avec moi. Oui, donc, c'est bien de la pomme qu'il s'agit, et non du verrou. D'ailleurs, le verrou. Quelle idée de nom pour un tableau.
Le verre ou peut-être le verre dans la
pomme.
Non,
mais
non,
c'est pas l'Oulipo. Imagine-t-on un maître aussi illustre que Fragonard se concentrer sur les huisseries au point même de donner le titre à un de ses chefs-d'œuvre. Le verrou, pourquoi pas la charnière, le cadenas, le serre-joint ou la prise électrique, enfin, c'est n'importe quoi. Il y a trois éléments à ce tableau d'intérieur en clair-obscur. La pomme, bien sûr, bon, c'est indigné, hein, au premier plan, au cœur de l'œuvre. Et puis au second plan, il y a un lit au mouvement complexe et aux draperies en désordre. Et donc, enfin, au fond, tout au fond, une porte, une simple porte sans intérêt, sans moulure, sans rien, une porte même pas ornée. Une porte...
Et pourquoi il a mis une porte, alors ?
Pour qu'il y ait un verrou, très probablement. Et parce que c'est une porte qui figurait au derrière de la pomme, Une pomme n'est pas aussi abstraite que cela, il faut bien vous le dire. Elle est toujours posée quelque part dans un contexte. Ouais, là, ouais. C'était l'atelier du peintre.
C'est la pomme et son décor.
Et il y a une porte au fond de l'atelier du peintre. Ouais. Ouais. Parce qu'il faut bien qu'il en sorte à un moment ou à un autre. Ouais. Ce que je fais moi-même en ce moment.
Assez régulièrement.
Alors, le plus important quand on se livre à l'analyse d'une toile, c'est bien évidemment la lumière.
Ben,
la lumière. Mmh. D'où vient la lumière? Et là, de toute évidence, elle vient d'une mince lucarne au travers de laquelle le soleil envoie un généreux halo tel un projecteur. Oui, notre pomme, la pomme est éclairée par le soleil. Seulement, je vous demande, que fait le soleil au cours de la journée?
Il se couche.
Et ouais.
Il tourne.
Ah.
Il tourne. Avant de se coucher, il tourne. Bonne réponse, Dominique. Mais il tourne. Et donc, au matin, quand le peintre a mis en scène son dispositif, le fameux halo lumineux visait donc bien la pomme, en majesté. Ouais. C'est la pomme qui était en lumière, cette pomme sublime et fièrement posée sur un sobre guéridon. Seulement voilà, l'après-midi venant, le soleil passant d'est en ouest, comme il en est...
Oui, il a l'habitude.
Un peu
quoi.
Partout.
Il fait comme ça.
Au fil de la séance, la pomme s'est retrouvée...
Dans l'ombre.
Dans l'ombre.
Ah, un deuxième point pour Dominique Bellerin.
Il connaît par cœur le tableau, mais je le sais. Et donc le soleil a fini bêtement sur la porte, au fond.
Oui.
Alors, que dire de cette pomme? Sinon, sans doute que c'est une... C'est là qu'il y a débat sur la couleur. C'est une gala ou une reine de rainette. C'est certainement pas une Boscop, pas plus qu'une Golden, pas sûr qu'elle soit verte.
Ni une Granny Smith.
Non.
Ah non.
Ou alors une Cabaret ou une Bismarck. Mais vous le comprendrez, le fait même qu'elle soit mal éclairée, n'est-ce pas, perturbe toute analyse et n'autorise pas d'en distinguer précisément la robe.
Oui.
Par contre, à cause toujours de ce malencontreux rayon de soleil, donc on distingue beaucoup mieux la robe de la jeune femme, sans doute un satin doré, tout ce qu'il y a de bouffant, de commun, de vulgaire, sans le moindre intérêt. Quant à l'homme, n'en parlons pas, il est carrément en caleçon, ce qui dit bien qu'il ne s'agissait en rien d'un modèle pour le peintre. Car quand on pose devant Fragonard, on ne se ramène pas en Marcel.
Oui, on s'habille, monsieur.
On s'habille, absolument. Nous sommes bien d'accord, c'était marqué. on fait un effort. Mais bon, sans doute, ces deux sujets se trouvaient là, à ce moment-là, dans l'atelier du peintre, dans l'ombre complète, mais le soleil étant ce qu'il est, dardant de plus en plus et tournant au fil de la journée, sans doute s'est-il mis à darder trop fort sur la pièce, au risque même de flétrir la pomme. Et là, tous ces velours, il faisait tellement chaud que la dame, sans doute, se sera sentie mal, prise d'un coup de chaleur. D'ailleurs, on voit que le jeune homme la tient à bout de bras, tout en essayant sans doute, du bout des doigts, de régler la clim sur position cold fan summer. Voilà tout, c'est ce qui explique leur présence. Encore une fois, oublions ces deux sujets qui, comme on le dit vulgairement dans le monde de l'art, n'ont rien à faire là. Pardon, excusez la brutalité d'expression. Alors, la pomme, reine de gala, me direz-vous? Pas sûr, vous répondrai-je, d'autant que vu la saison, ce serait bien plutôt une comice. Mais de l'année...
C'est une poire, la comice. La...
Oui, les poires.
Justement.
Ah non, oui, de l'année précédente.
C'est-à-dire.
Ah, qui ressemblerait à une vieille pomme.
Pas très en forme. Alors pourquoi le peintre aurait-il choisi une poire à la place d'une pomme?
Ouais.
Et tout ça pour faire le sujet de son tableau. Eh bien, une métaphore, sans doute. Métaphore de ce que le temps passe et qu'il est urgent d'aimer, je ne vois que ça. Du moins, en tant qu'ancien élève des frères des écoles chrétiennes, c'est toujours ainsi qu'on m'a présenté l'œuvre, faussement nommée Le Verrou. Et si les plus avant-gardistes de nos éducateurs voulaient y voir un enseignement nutritionniste qui semblerait aujourd'hui peut-être un peu dépassé, une sorte de consigne du genre un fruit ou un légume par jour, hein, voilà, c'est le secret de la santé, voilà, sans doute, quel était le message du peintre? Une pomme au saut du lit, et c'est la santé pour la vie. Voilà.
C'était un très bon slogan, quand même.
Oui, c'était fameux.
Dommage que ce ne soit pas passé comme ça, en fait.
Non, en même temps, c'était précurseur. Hein, regardez,
une Fragonard, on dirait presque un nom de fruit.
Oui,
une pomme Fragonard. Je vais prendre une Fragonard et puis deux galas, s'il vous plaît.
Bow,
Thomas Sumac. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête. Des mots nouveaux pour le dire. La langue française est riche et de plus, elle est nourrie de mots qui viennent d'autres langues et tant mieux. Pourtant, il manque des mots pour dire certaines choses particulières. Exemple, comment parler en raccourci des heures passées à chercher le sommeil à cause d'une trahison amoureuse. Eh bien, nous suggérons de dire légadule. Ça va plus vite et le mot est plutôt joli, c'est un mot de Gérard Mordillat. Alors aujourd'hui, c'est Jean-Bernard Pouy qui a imaginé six mots nouveaux. Six mots parfaits, je suppose, plein de sens, enfin, du sens que vous leur avez donné, Jean-Bernard. Et ces mots, vous les avez insérés dans une histoire. Et cette histoire, elle sera confiée à Eva Almassy, à Patrice Delbourg pour traduction. Et on verra alors si vos mots fonctionnent, s'ils font image, s'ils ont le même sens pour nos deux traducteurs. Bien sûr, avant d'écouter votre histoire, on écoute vos six mots, Jean-Bernard Pouy.
Alors, je vais commencer par trois verbes.
Oui.
Bizarrement, trois verbes du premier groupe.
Pourquoi bizarrement? C'est joli, en fait, à l'oreille, les verbes du premier
oui,
groupe.
Oui, mais bon, j'aurais bien aimé mettre un verbe en « ir » ou en « ur ».
Et alors, vous n'avez pas réussi?
Non, j'ai pas eu envie.
Voilà. Bon, alors le premier.
Le premier verbe est un peu brutal, c'est un verbe intransitif qui est « crabuter ».
Crabuter.
Pour éviter justement buter, genre buter quelqu'un.
Avec un cas.
Donc on crabute pas quelqu'un.
Voilà, non, on crabute.
Mais on peut crabuter de peur, par exemple.
Par exemple, ou d'envie.
D'envie.
Ou de désir.
Voilà. Bah,
ou d'épectase, on crabute d'épectase.
Ah oui.
Le deuxième verbe, en revanche, est transitif, c'est le verbe piripiglosser.
Oula, avec des Y?
Pas du tout.
Piripiglosser.
C'est pas parce qu'il y en a un dans mon nom que j'en mets partout. Piripi, comme dans la chanson, piripi.
Bon,
piripiglosser, avec deux S.
C'est joli ça, piripiglosser.
Et le troisième verbe est intransitif également.
Oui.
Et c'est le verbe sinisgoter.
Ah, vous l'écrivez comment?
S-I-N-I-S. G-O-T-E-R. Sinisgoter.
C'est difficile, ça sent une espèce de douleur, ça, non?
Eh bien, pas du tout.
Pas du tout. Ah, c'est déjà un indice qu'il vous donne.
Non, non, mais j'en ai pas
Patrice.
Quoi, mais... Après un nom féminin,
oui.
La Boludine.
La Boludine, la bonne Boludine du docteur.
La tisane pour le foie.
Oui, mais non. La Boludine.
On n'est pas loin quand même. Hein.
Pas du tout. Après un nom féminin, L apostrophe, parce que c'est rare qu'on voit des L apostrophe. Donc c'est l'Arélie.
Que L apostrophe,
A-R-E-L-I-E, l'Arélie.
Oui.
Et le dernier mot, c'est un nom masculin,
oui.
Qui est le colcotrave.
C-O-L.
C-O-L-C-O-T-R-A-V-E.
Alors, crabuté, piripiglossé, sinisgoté, la Boludine, l'Arélie, le colcotrave. Ah ben ça... Ça impose quelque chose. Hein.
Ah, ça en impose velu, comme on dit.
Oui. On n'est pas, disons qu'on n'est pas dans la légèreté, je trouve. À mon avis, l'histoire doit être un petit peu dangereuse, grave, polardeuse, on
polardeuse,
peut dire.
Peut-être gastrique,
mais...
parfois.
Peut-être. Mais grâce à la Boludine, tout ira bien.
Le transit s'allège.
Alors ces mots, bah, après les avoir inventés, vous êtes mis devant votre ordinateur et vous avez tapé une histoire. Vous avez imaginé une histoire dans laquelle ces mots vivent leur vie.
Exactement.
On l'écoute.
Dans le métro, au petit matin,
voilà.
Il en avait presque oublié de sinisgoter. Depuis la veille au soir, depuis la tonitruante fête d'anniversaire de Victoria, il était tourneboulé. Il avait changé, il crabutait sa mémoire, et en pleine Arélie, il avait la furieuse impression de piripiglosser les tréfonds de son histoire récente, tous ces petits événements qui étaient comme de la Boludine et qui se résumaient en disgracieux colcotraves, ruinant la perfection de son personnage.
C'est un beau texte.
Oui, c'est du Modiano un peu, mais...
Ouais. On ne comprend pas vraiment ce que ça peut vouloir dire. Je ne sais pas, Violaine Schwartz, vous n'avez pas à traduire le texte de Jean-Bernard Pouy, mais comme ça, il vous parle? Qu'est-ce qu'il vous raconte?
Je m'interroge sur ce qui s'est passé à cette fête la veille. Et...
Oui, mais quelque chose de grave, vous pensez? Ou c'est une atmosphère joyeuse?
Un coup de foudre, peut-être?
On sent plutôt le mec au bout du rouleau, entre Corvisart et Glacière.
oui.
qui essaye de soigner les habitudes de la veille.
On va voir, on va voir. En tout cas, Eva Almassi, Patrice Delbeau, vous allez travailler sur la traduction de ce joli texte de Jean-Bernard Pouy. Et on retrouve Eva Almassi et Patrice Delbourg avec leur traduction. Ça s'est bien passé? C'était compliqué ces mots? Crabuté, piripiglossé, sinisgoté, la boludine, l'arélie, le colcotrave quand même. Ouais. Colcotrave, hein, c'est un air dangereux, je trouve. Quel est le mot qui a déclenché votre imagination pour la traduction, Eva Almassi?
Bah, c'était crabuté parce que je pensais que ça vient de crabe et de butte.
Ah, mot valise.
Oui,
oh, c'est pas le genre de Jean-Bernard Pouy, de faire des mots valises.
Notamment à roulette, non, jamais.
Mais quand même involontairement. Et puis il y avait des consonances russes. Hein. Uh-huh. Aussi dans colcotrave d'ailleurs, mais c'est un autre mot, boludine, c'est presque comme borodine, c'est là.
Ah, et vous, vous aussi, Patrice Delbeau?
Oui, c'est vrai, boludine, borodine. C'était les danses polovdiennes, le prince Igor, oui. Oui, c'est boludine qui, pour moi, était l'élément moteur. Un bon bol de boludine et hop, ça repart.
Je pensais que c'était hop au lit, moi. Bon, on va voir vos traductions en mot à mot. Alors, crabuté, ce si joli verbe du premier groupe, crabuté, Eva Almassi.
Donc, c'est avancer comme des crabes à reculons, tout en voulant aller droit au but, hein, creuser et fouiller jusqu'à se torturer.
Ah oui, il y a tout ça dans crabuté.
Ouais.
Oula, Jean-Bernard Pouy, vous avez un air dévasté là, non?
Moi, j'ai un petit quelque chose quand même.
Ah, quand même?
Mais tout petit, hein.
Dans le fait de vouloir aller droit au but tout en y allant de guingois?
Pas vraiment, vous le saurez après.
Et pour vous, Patrice Delbourg, crabuté?
Crabuté, c'est agacer une mouche à moitié morte avec une baguette de Mikado. C'est un jeu d'enfant.
Ah bon?
D'enfant pervers. Mais...
Ah oui, un petit peu quand même, tu veux. On est plus près, Jean-Bernard Pouy, avec Patrice Delbourg, plus loin?
Je m'en voudrais que l'on soit plus près. Je suis un poète, moi.
Alors, c'est quoi crabuté pour
vous? Crabuté, c'est creuser à l'aide d'un couteau ou d'un économe un légume ou un fruit qui présente des zones noires ou des zones pourries. Ah, on les enlève sans toucher au reste du fruit. Voilà, on crabute.
Ah, donc, ça creuse.
Donc, il y avait un petit côté creusé.
Le creuser. Ouais.
Avec un économe, on racle les blétitudes de l'âme.
Comme c'est joli. Ça peut avoir ce sens figuré aussi chez vous, Jean-Bernard Pouy?
Oui, bien sûr. Ouais. Mais apparemment, je l'emploie dans un sens figuré, là.
Bon, on passe au deuxième verbe, piripiglossé. Eva Almassi.
Piripiglossé, c'est traduire mécaniquement dans toutes les langues dont on connaît ne serait-ce qu'un seul traître mot.
Ah, t'es attiré par glose.
Par glossé, oui, glossolalie, parler en langue, c'est ça, c'est l'étymologie pour moi. Et piripi, c'est vraiment comme les poules picorent. Donc, c'est involontairement, parce que tellement on se sent chamboulé que tous les mots nous passent par la tête.
C'est assez joli, c'est un peu inquiétant, Patrice Delbourg. Piripi glossé.
Piripi, oui, ça m'a fait penser à pili-pili, donc plutôt un terme culinaire.
Ouais.
Alors, piripi glossé, c'est touiller avec application le fond d'un avarin d'agneau qui attache avec une spatule de bois.
Oh, bah, tout simplement, quoi. On piripi glosse, voilà. Je ne vais pas dire tous les jours,
mais enfin, jours, c'est mais souvent. On peut aussi piripi glosser une blanquette également.
Oui.
De veau.
Ou un sauté de veau.
Ou un sauté, voire une choucroute, hein, dont la, dont le chou de se calcine un petit peu.
Ah oui, c'est pour éviter que ça noircisse.
Voilà,
quoi.
Pour éviter que ça attache le fond de la marmite.
Donc ça a une notion quand même d'urgence.
Si on
piripiglosse pas, il se passe une catastrophe.
Ah bah, si on piripiglosse pas, on a une espèce de fondu innommable dans son assiette.
Ah oui, en tout cas, est-ce qu'un des deux est proche de votre
définition ? C'est pas très loin parce qu'il y a quand même un rapport avec la cuisine.
Et alors c'est quoi ?
Avec la table de la cuisine. Eh bien, c'est avec un manche de fourchette ou un couteau, nettoyer les rainures en bois d'une table où il y a toutes les saletés dedans, les miettes, les trucs, les ongles, les... Et tout enlever, voilà.
Et se mettre ça sur une tartine de pain.
Et avec du miel.
Bon, c'est pas très ragoûtant, quand même. Sinise Gauthier et Valmassi.
Ça promenait son regard sur les visages des femmes présentes selon la marche du cavalier sur l'échiquier. C'est-à-dire qu'on ignore deux femmes et puis après on tourne à droite ou à gauche. C'est en forme de L qu'avance le cavalier.
Bien sûr.
Les pauvres ignorés et puis après on repose son regard sur la case.
Il paraît très intéressant, votre texte.
Et finalement, je n'ai pas cherché à expliciter le texte, mais à rester dans les atmosphères suggérées.
Alors, c'est un rapport avec le jeu des échecs, Jean-Bernard Pouy ?
Pas vraiment, non.
Non ? On va voir si Patrice Delbourg est plus proche de vous. C'est possible qu'il soit plus proche de vous, Patrice
Sinise
Delbourg.
Gauthier.
Oui.
C'est dommage qu'on n'ait pas l'image, mais c'est serrer très fort la mâchoire pour donner du relief à son profil et effacer les premières avancées d'un drapé de chair goitreux.
Oh.
Donc c'est un peu comme ça. Je vous le fais là pour les auditeurs.
Bien devant le micro. Si
bien faire saillir le muscle du maxillaire pour essayer de ravaler un petit peu l'avancée d'un œdème de coin.
Vous n'en avez pas besoin, Patrice.
Tout le monde en a besoin après 82. Bien sûr.
82.
Pour faire Kirk Douglas. De toute façon, en fait.
C'est. Voilà. Ouais, faire son Kirk Douglas.
Oui, c'est ça. Enfin, moi, je pensais que même Tom Cruise, même jeune, il fait déjà ça, préventivement.
Bien sûr.
Et rien qu'avec ça, cette seule capacité, on peut être acteur à Hollywood.
Bien sûr, mais DiCaprio, Sinise Gauthier dans son berceau.
Exactement. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il n'a jamais eu d'Oscar.
Ah bon ? Oh là, elle en connaît des choses sur Hollywood.
C'est très people.
Ouais, Sinise Gauthier pour vous, Jean-Bernard Pouy.
Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'a dit Patrice, mais c'est un toc aussi.
Ah.
C'est un toc, c'est-à-dire c'est toujours grimper un escalier en commençant du pied gauche.
Oui, ça, ça peut toc. Arriver. Oui, c'est un toc.
Ce que je pratique assez souvent.
Mais donc, c'est une sorte de marche.
Donc,
pas comme les pions, mais en sautant. Donc, exactement comme un marche de cavalier. Je suis désolée.
Voilà,
oui, mais
on va
monter l'escalier comme un cavalier, tu te casses la gueule. Enfin, tu passes par-dessus la rampe très vite.
C'est pour ça que le cavalier, c'est aussi le fou.
Alors, on va aborder la Boludine qui, j'ai cru comprendre, est très importante pour vous trois.
La Boludine, c'est une bouillie de réminiscences de tout ce qu'on a lu des auteurs russes du 19e siècle.
Ah, il fallait un mot. Et Eva l'a trouvé. Enfin, elle l'a trouvé. Non, elle s'est servie d'un mot de Jean-Bernard Pouy pour ce sens. Et parce que c'était nécessaire. C'est une bonne idée, non, Patrice
Poutine.
Exactement.
Alors la boludine,
pour vous,
il y a un petit peu de ça, mais la boludine, c'est l'écume superflue qui apparaît aux commissures des lèvres du dormeur au réveil.
Une légère bave, voilà. Comme chez les bébés.
Voilà, mais même un peu plus tard, il y a une espèce de petite bave comme ça au réveil qui témoigne d'une nuit, tranquille parfois.
Pleine, quoi.
Agitée, pleine, oui. Pleine avec des retours comme ça de rêves et de songes. Voilà, c'est la boludine.
Bon, c'était un mot bien joli pour une chose qui n'est pas extrêmement sexy, mais bon.
Oh, c'est la vie des muqueuses.
Ils ne sont pas loin, tous les deux. Ah bon ?
La boludine, c'est la matière transparente et luminescente que laissent les escargots en avançant.
Mais c'est exact.
Ce qu'on appelle la bave des escargots. Oui, on n'est pas très loin de la bave. Oui. Et on n'est pas très loin aussi de ce qui reste des
auteurs russes
du 19e ou du 20e.
Et parce qu'on...
de bave d'escargot.
Ah ben oui, oh ben non. Exactement. Oh bon, non, là, vous êtes très sévère. Oh oui. Non.
Soyons sévères dans la vie.
Mais pas avec les romanciers russes.
C'est, vous savez que dans les crèmes maintenant, c'est ce qu'on met de la bave d'escargot.
Dans les crèmes de beauté.
Dans les crèmes de beauté. Ah bon, ah, c'est voilà les plus chères. Ouais.
Pourquoi les femmes sont si
lentes? Lifting.
Bon, on va passer à Larelli, alors elle apostrophe.
C'est une culpabilité profonde d'avoir oublié la gaffe qu'on avait commise.
Ça arrive, en même temps, ça soulage, hein, ouais. Quand on oublie, bon, on tourne la page, hein, non, proche, pas proche, Jean-Bernard Pouy, pas proche, Patrice Delbourg.
L'Arelli, c'est un sentiment de marasme cérébral qui vous fait confondre Lénine et Lennon, Marx et Merx, et le Dalaï et Serge Lama.
Ah oui, alors peut-être ces deux-là sont les plus éloignés.
On n'est
pas loin non plus.
On n'est pas loin, ça n'a rien à voir, mais on n'est pas loin, parce que c'est quand même, oui... C'est quand même un état transitoire pénalisant.
Ah. Et alors ?
C'est l'état quand vous sortez de chez le dentiste après une anesthésie. Mmh. Pendant une heure ou deux, on ne sent plus rien, on bave encore, enfin, on ne peut plus mâcher, on ne contrôle plus ses lèvres, et c'est très très gênant, quoi.
Ouais. Donc, c'est ça l'Arelli.
L'Arelli ?
Ah oui. Et alors, on va terminer par le colcotrave, Patrice Delbourg, le colcotrave.
Alors, le colcotrave, c'est un ensemble d'enflures, de gibbosités, d'œdèmes qui accompagnent la surface de l'épiderme au lendemain d'une indigestion alimentaire.
Ah oui, c'est presque une intoxication,
voilà,
même.
Oui. Absolument. Mmh. C'est-à-dire, on a vraiment le corps qui double de volume avec des rougeurs, des œdèmes de quink-quink qui sont bon, douloureuses et pas très jolies à l'œil.
C'est un peu grave quand même le colcotrave, hein, version
Je rattrape les toques de tout à l'heure,
oui.
Parce que chez moi, les colcotraves, c'est des tics, grimaces et grincements de dents consécutifs au sentiment qu'on est le dernier des imbéciles.
Ah, ben oui, mais c'est une douleur. Hein. Ouais. Donc, effectivement, il faut bien que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Il va être bizarre, votre texte, je trouve, oui.
C'est des textes chargés en toc et en tic.
Oui. Jean-Bernard Pouy, c'est quoi le colcotrave?
Le colcotrave, c'est très, très simple. Et ça ne concerne que les gens qui portent des lunettes. Ah. C'est les deux traces en creux, en haut du nez, qui sont formées par les appuis de lunettes. Et qui sont assez désagréables, sont toujours un peu blanchâtres. Et en creux, on a toujours l'impression qu'il faut se mettre du fond de teint pour les éliminer.
Mais vous le faites.
Un violaine.
Ah, ça, il fallait vraiment un mot pour ça, je trouve.
C'est fou, ça, le colcotrave.
Mais on va voir comment tient le texte de Jean-Bernard Pouy, qui était quand même un joli texte, avec vos traductions. D'abord, Eva Almassi, vous donnez un titre aussi, peut-être, à votre histoire.
Eh bien, c'est Boris dans le métro.
Oui.
Je trouve que Boris, ça va bien
au
personnage, oui, avec les auteurs russes et réminiscences. Et puis, Boris et Victoria, c'est pas mal. Dans le métro, au petit matin, il en avait presque oublié de promener son regard sur les visages des femmes présentes selon la marche du cavalier sur l'échiquier. Depuis la veille au soir, depuis la tonitruante fête d'anniversaire de Victoria, il était tourneboulé, il avait changé, il avançait comme des crabes à reculons, tout en voulant aller droit au but, creusant et fouillant jusqu'à se torturer la mémoire. Et en pleine culpabilité profonde d'avoir oublié la gaffe qu'il avait commise, il avait la furieuse impression de traduire mécaniquement dans toutes les langues dont il connaissait, ne fût-ce qu'un seul mot, les tréfonds de son histoire récente. Tous ces petits événements qui étaient comme une bouillie de réminiscences des auteurs russes du 19e siècle et qui se résumaient en disgracieux tics, grimaces et grincements de dents consécutifs au sentiment qu'il était le dernier des imbéciles, ruinant la perfection de son personnage.
Ah, ça ressemble... C'est pas les mêmes motifs, mais ça ressemble vraiment au texte...
Original.
Original, ah oui.
En tout cas, il est pas très bien, quoi.
on peut pas dire.
Le texte
bah,
ou
il faudrait qu'il dort.
Non, le personnage.
Bah, écoutez, il dort un petit peu, au réveil, il appelle Victoria et tout ira bien.
Tout ira bien, peut-être, oui. Il y a cette même gravité chez vous, Patrice Delbourg ?
Oh oui.
Oui, quand même. Hein.
C'est l'aube, c'est le métro.
Oui, c'est jamais très rigolo, oui.
Ça s'appelle marasme.
Ah oui, évidemment.
Dans le métro, au petit matin, il en avait presque oublié de serrer très fort la mâchoire pour donner du relief à son profil et effacer les premières avancées d'un drapé de chair goitreuse. Depuis la veille au soir, depuis la tonitruante fête d'anniversaire de Victoria, il était tourneboulé, il avait changé, il agaçait la mouche de sa mémoire à moitié morte avec une baguette de Mikado.
Oh et là, c'est beau ça, ça très beau, il agaçait la mouche de sa mémoire.
Et en plein sentiment de ce marasme cérébral qui vous fait confondre Lénine et Lennon, Marx et Merx, le Dalaï et Serge Lama, il avait la furieuse impression de touiller avec application le fond d'un avarin d'agneau avec une spatule en bois. Toute son histoire récente, tous ces petits événements qui étaient comme cette écume superflue qui apparaît aux commissures des lèvres du dormeur au réveil et qui se résumait en disgracieuse enflure, gibbosité, œdème qui accompagne la surface de l'épiderme au lendemain d'une indigestion alimentaire, ruinant ainsi la perfection de son personnage.
Bon oui, on a deux types pas très bien dans le métro. Peut-être c'est encore plus grave chez Patrice Delbourg, oui.
C'est un peu plus Vidal.
Oui.
Il y a les gibbosités.
On n'est pas très loin de l'HP.
Hein. Ils ont bien senti la, non seulement la beauté de ce texte, mais qu'il y a quand même quelque chose d'un peu sinistre et de décapé.
Oui, mais c'est les mots qui induisaient ça. Hein. Les mots étaient dangereux, non ? Vous ne trouvez pas, Violaine ?
Oui, moi j'avais vu un coup de foudre, mais c'est vrai que je ne sais
oui,
pas.
Oui, c'est vrai. C'était votre opinion. Non, mais il y a des gens optimistes, et heureusement que vous êtes là aujourd'hui, Violaine.
Coup, ça peut être désastreux, un coup de foudre.
C'est le lendemain.
Quand le tonnerre arrive.
Alors, on écoute ce texte magnifique, votre texte magnifique, Jean-Bernard.
Non, c'est le leur qui est magnifique. Dans le métro, au petit matin, il avait presque oublié de grimper, comme d'habitude, les escaliers en démarrant du pied gauche. Depuis la veille au soir, depuis la tonitruante fête d'anniversaire de Victoria, il était tourneboulé. Il avait changé. Il creusait, à l'aide d'un économe, le légume pourri de sa mémoire. Et comme s'il sortait, anesthésié de chez le dentiste, il avait la feuilleuse impression de nettoyer au couteau les rainures d'une vieille table, les tréfonds de son histoire récente, tous ces petits événements qui brillaient comme de la bave d'escargot et qui se résumaient en disgracieuses petites traces en creux laissées par des montures de lunettes et ruinant la perfection de son personnage. C'est un peu comme du Emmanuel Bove, un peu.
Un petit peu, ça, ce côté, oui. Oui, alors on propose tous ces mots. Hein. Vous allez les retrouver sur le site des Papous. Si vous êtes tendance suicidaire, tendance pas joyeuse, c'est pour vous. Des Papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Stressart avec Anne de Pelchin et Clonior. À retrouver sur franceculture.fr pour le podcast pendant un an. La réécoute directement sur la page du 8 mars pendant 1000 jours. Page sur laquelle vous pouvez écrire vos remarques, questions, suggestions, rubriques, commentaires. Et puis baladez-vous dans nos pages Livres des Papous et Vie du Club pour découvrir notre actualité, dernière parution, expo, spectacle, émission publique. Comme les Papous au Salon du Livre, ce sera le dimanche 22 mars à Paris. Au revoir. Dans quelques instants, c'est Tire-ta-langue qui vous accompagne par Antoine Perrault. À écouter pour un très bel après-midi sur France Culture.